Comment, cher ami, vous êtes la première? Moi qui me croyais de 10 minutes en avance. Et vous avez eu la peine de commander le thé, et vous m'attendez. Il était fort gêné et frémissant lui-même, à l'idée de la désastreuse scène qu'il prévoyait. Très correct d'ailleurs, se forçant tout sourire, voulant paraître tout à la joie galante de la retrouver là, comme au beau temps de leur liaison. Mais elle, debout, la voilette levée enfin, le regardait, bégayait. « Oui, j'ai été libre plus tôt. J'ai craint quelque empêchement, alors je suis venue. » Et, à le voir si beau, si affectueux encore, elle s'oublia, s'affola. Tous ses raisonnements, toutes ses belles résolutions furent emportés. C'était l'élan invincible, l'arrachement même de sa chair à la pensée qu'elle l'aimait toujours, et qu'elle le garderait, et que jamais elle ne le donnerait à une autre. Éperdument, elle s'était jetée à son cou. « oh Gérard, je souffre trop, je ne peux pas, je ne peux pas. Dis-moi tout de suite que tu ne veux pas l'épouser, que tu ne l'épouseras jamais. » Sa voix s'étrangla, ses yeux ruisselèrent. Ah, ses larmes, qu'elle s'était tant jurée de ne point verser. Elles coulaient sans fin, elles débordaient de ses beaux yeux noyés dans un flot d'abominables douleurs. « Ma fille, mon Dieu, tu épouserais ma fille, elle avec toi, elle dans tes bras à cette place? Non, non, c'est trop de torture, je ne veux pas, je ne veux pas. » Il restait glacé devant ce cri d'affreuse jalousie, où la mère n'était plus qu'une femme, qu'enrageait la jeunesse d'une rivale, ses 25 ans qui ne pouvaient revenir. Lui-même, en se rendant au rendez-vous, avait pris les plus sages décisions, résolu à rompre loyalement, en homme bien élevé, avec toutes sortes de belles phrases consolantes. Mais il n'était point méchant, il avait un fond de faiblesse tendre dans ses abandons d'oisifs, sans force surtout contre les larmes des femmes. Il essaya de la calmer, il l'assit sur le divan pour se débarrasser de son étreinte. Puis, se mettant près d'elle, « Voyons, ma chère, soyez raisonnable, n'est-ce pas? Nous sommes venus ici pour causer amicalement. Je vous assure que vous vous exagérez les choses. » Mais elle exigeait une certitude. « Non, non, je souffre trop. J'ai besoin de savoir tout de suite. Jure-moi que tu ne l'épouseras pas, jamais, jamais. » Une fois encore, il tâcha d'éluder la réponse. « Vous vous faites du mal. Vous savez bien que je vous aime. Non, non, jure-moi que tu ne l'épouseras pas, jamais, jamais. Mais puisque c'est toi que j'aime, puisque je n'aime que toi. » Elle le reprit ardemment, le serra contre sa gorge, lui couvrit les yeux de baisers. « C'est vrai, ça, tu m'aimes, tu n'aimes que moi. Eh bien, prends-moi donc, baise-moi, que je te sente, que tu sois à moi toujours, jamais à l'autre. » Et Ève força Gérard aux caresses, se livra dans un tel emportement qu'il ne put rien lui refuser, grisé lui-même. Et très lâchement alors, sans force désormais, il lui jura tout ce qu'elle voulut. Il répéta à satiété qu'il n'aimait qu'elle et que jamais il n'épouserait sa fille. Il descendit jusqu'à prétendre que cet enfant infirme lui faisait pitié simplement. Sa bonté était son excuse. Et Ève buvait sur ses lèvres tout ce dédain apitoyé qu'il avait pour l'autre, toute la certitude d'être l'éternellement belle, la toujours désirée. Puis, quand ce fut fini, tous deux restèrent assis sur le divan, muets et là. Un embarras les reprenait. « Ah ! » dit-elle à voix basse, « je te jure bien que je n'étais pourtant pas venue pour ça. » Le silence retomba, il voulut le rompre. « Tu ne prends pas une tasse de thé, il est déjà presque froid. » Mais elle ne l'écoutait pas, et comme si rien ne s'était passé, comme si l'inévitable explication commençait seulement, elle parla, l'air brisé, avec une infinie douceur de désolation. « Voyons, mon Gérard, Tu ne peux pas épouser ma fille. D'abord, ce serait une chose très vilaine, presque un inceste. Et puis, il y a ton nom, ta situation. Pardonne-moi d'être si franche, mais enfin, tout le monde dirait que tu te vends. Ce serait un scandale pour les tiens et pour nous. » Elle lui avait pris les mains, sans colère désormais, telle qu'une mère qui cherche de bonnes raisons pour empêcher son grand-fils de commettre quelque exécrable faute. Et lui, la tête basse, évitant de la regarder, écoutait. « Songe un peu à l'opinion, mon Gérard. Va, je ne m'illusionne pas. Je sais qu'entre ton monde et le nôtre, il y a un abîme. Nous avons beau être riches, l'argent élargit le fossé. Et j'ai eu beau me convertir, ma fille restera la fille de la juive. Ah, mon Gérard, je suis si fière de toi. Cela me serait un tel crève-cœur de te voir diminuer et comme sali par ce mariage d'argent, avec une enfant infirme qui n'est pas digne de toi, que tu ne peux aimer. » Il leva les yeux, la regarda, mal à l'aise, suppliant, voulant échapper à cette conversation si pénible. « Mais puisque je t'ai juré que je n'aimais que toi, puisque je t'ai juré que je ne l'épouserai jamais, c'est fini, ne nous torturons pas davantage. » Leurs regards restèrent un instant l'un dans l'autre, avec tout ce qu'ils ne disaient pas, leur lassitude, leur misère. Et les paupières d'Ève, les tristes paupières rougies dans son visage marbré, vieilli tout d'un coup, se gonflèrent de larmes qui se mirent à ruisseler sur ses joues tremblantes. Elle pleurait de nouveau, sans fin, mais doucement. « Mon pauvre Gérard, mon pauvre Gérard, me voici lourde à tes bras maintenant. Ne dis pas non, je sens bien que je suis une charge intolérable, que je barre ta vie, que je vais achever de faire ton malheur en m'obstinant à te garder pour moi. » Il voulut se débattre, elle le fit taire. « Non, non, c'est bien fini entre nous. Je deviens laide, c'est fini. Et puis, avec moi, c'est ton avenir muré. Je ne puis t'être d'aucun secours. Tu me donnes tout en te donnant, et je ne te rends rien. Voilà pourquoi le moment venu de te créer une position. Tu ne peux, à ton âge, vivre sans certitude, sans foyer. » Et ce serait si lâche à moi d'être l'obstacle, de t'empêcher de faire une fin heureuse en m'accrochant, en te noyant avec moi, en désespéré. » Elle continua, le regard toujours sur lui, ne le voyant plus qu'au travers de ses larmes. Comme sa mère, elle le savait si faible, si maladif même, derrière sa façade de bel homme, qu'elle aussi rêvait de lui assurer une existence calme, un coin de félicité certaine où il pourrait vieillir à l'abri du sort. Elle l'aimait tant, sa réelle bonté d'amoureuse tendre, ne pouvait-elle se hausser au renoncement, au sacrifice? Même dans son égoïsme de femme belle et adorée, elle trouvait des raisons de songer à la retraite, de ne point gâter la fin de son automne par des drames qui la brisaient. Et elle disait ces choses. Elle le traitait en enfant dont elle voulait faire le bonheur, au prix du sien. Tandis que, maintenant, les yeux de nouveau baissés, il l'écoutait, immobile, sans protester davantage, heureux de lui laisser arranger son existence, telle qu'elle la désirait. « C'est bien certain, » poursuivit-elle, en finissant par plaider les raisons en faveur de l'abominable mariage. « Camille, t'apporterait tout ce que je te souhaite, tout ce que je rêve pour toi. Avec elle, grâce aux conditions que je n'ai pas besoin de dire, c'est la vie fortunée, assurée. Quant au reste, mon Dieu, il y a tant d'exemples. Ce n'est pas que je veuille excuser notre faute, mais j'en citerai 20 des maisons où il s'est passé des choses pires. Et puis, va, j'avais tort, lorsque je disais que l'argent creusait un abîme. Il rapproche, au contraire. Il fait tout pardonner. Tu n'aurais autour de toi que des jalousies, émerveillée de ta chance, et pas un blâme. » Gérard se leva, parut une dernière fois se révolter. « Voyons, ce n'est pas toi, à présent, qui va me forcer à épouser ta fille. » Ah, grand Dieu, non. Mais je suis raisonnable. Je dis ce que je dois te dire. Tu réfléchiras.
C'est tout réfléchi. Je t'ai aimé et je t'aime. Le reste est impossible.
Elle eut un divin sourire. Elle vint le reprendre entre ses bras, debout tous les deux, unis une fois encore dans cette étreinte. Que tu es bon et gentil, mon Gérard. Si tu savais comme je t'aime, comme je t'aimerai toujours, malgré tout. Et ses larmes revinrent, et lui-même pleura. Ils étaient de bonne foi l'un et l'autre, dans leur naturelle tendresse, reculant le dénouement pénible, voulant espérer encore du bonheur. Mais il le sentait bien, le mariage était fait. Il n'y avait plus là que des pleurs et des maux. La vie marchait quand même, l'inévitable s'accomplirait. L'idée qui les attendrissait à ce point devait être que c'était leur dernière étreinte, leur dernier rendez-vous, car ce serait si vilain de se revoir après ce qu'ils savaient, ce qu'ils s'étaient dit. Pourtant, ils voulaient garder l'illusion qu'ils ne rompaient pas, qu'ils retrouveraient peut-être un jour le goût de leurs lèvres. Et la fin de tout pleurait en eux. Puis, quand ils se furent séparés, ils revirent les trois cabinets avec son divan fané, ses quatre chaises et sa table. La petite cheminée à gaz sifflait. On étouffait maintenant, dans une humidité lourde et chaude. « Alors, reprit-il, tu ne prends pas une tasse de thé ?» Elle était devant la glace, en train d'arranger ses cheveux. « Ma foi, non, il est épouvantable ici. » Et la tristesse des choses la pénétrait, l'angoissait, à cette minute du départ. Elle, qui avait cru trouver là un si délicieux souvenir, lorsque des bruits de pas, des voix grosses, tout un brusque tumulte acheva de la bouleverser. On courait dans le couloir, on frappait aux portes. De la fenêtre où elle se précipita, elle aperçut des agents qui cernaient le restaurant. Les plus folles idées l'assaillirent. Sa fille qui l'avait fait suivre, son mari qui voulait divorcer pour épouser Sylviane. C'était le scandale affreux, l'écroulement de tous les projets. Elle attendait, toute blanche, éperdue, tandis que lui, pâle comme elle, frémissant, la suppliait de se calmer, de ne pas crier surtout. Mais lorsque de grands coups ébranlèrent la porte et que le commissaire de police se nomma, il fallut bien ouvrir. Ah, quelle minute! Et quel effarement! Et quelle honte! En bas, Pierre et Guillaume avaient attendu pendant près d'une heure que la pluie cessa. Ils causaient à demi-voix, dans un coin de la petite salle vitrée, envahie par la douceur triste de cette grise journée de fête, discutant, prenant enfin un parti sur le douloureux cas de Nicolas Barthès. Et il s'était arrêté à l'idée de faire venir dîner le lendemain soir Théophile Morin, le vieil ami de l'éternel prisonnier, pour annoncer à celui-ci le nouvel exil qui le frappait. « C'est le plus sage, » répéta Guillaume. « Morin, qui l'aime beaucoup, prendra toutes les précautions voulues et l'accompagnera sans doute jusqu'à la frontière. » Pierre, mélancoliquement, regardait tomber la pluie fine. « Encore le départ, encore la terre étrangère, quand ce n'est pas le cachot. Ah, le pauvre être sans joie, traqué toute sa vie, ayant donné sa vie entière à son idéal de liberté qui se démode, dont on plaisante, et qu'il voit crouler avec lui. Mais de nouveau, des agents, des gardes parurent, rôdèrent autour du restaurant. Sans doute, ayant compris qu'ils avaient perdu la piste, ils revenaient avec l'idée que l'homme devait s'être, au passage, terré dans ce chalet. Et savamment, ils le cernaient, prenaient des précautions avant de procéder à des fouilles minutieuses, pour être certains, cette fois, que le gibier ne leur échapperait pas. Les deux frères, lorsqu'ils se furent aperçus de cette manœuvre, se sentirent envahis d'une crainte sourde. C'était l'abattu de tout à l'heure. Ils avaient bien vu l'homme fuir. Mais pourtant, qui leur disait qu'on n'allait pas les forcer à établir leur identité, puisqu'ils s'étaient jetés si fâcheusement dans ce coup de filet? De regard, ils se consultèrent, eurent un instant la pensée de partir sous l'averse. Puis, ils comprirent que cela ne pouvait que les compromettre davantage. Et ils attendirent, d'autant plus que l'arrivée de deux nouveaux clients vint faire diversion. Une Victoria, dont la capote était baissée et le tablier relevé, s'arrêtait devant la porte. Il en descendit d'abord un jeune homme, l'air correct et ennuyé, puis une jeune femme qui riait aux éclats, très amusée par cette pluie incessante. Ils discutaient ensemble. Elle regrettait, en manière de plaisanterie, de n'être pas venue à bicyclette, tandis que lui trouvait inepte cette promenade sous un déluge. « Enfin, mon cher, il fallait bien aller quelque part. Pourquoi n'avez-vous pas voulu me mener voir passer les masques ?»«
Oh, les masques, ma chère, non, non, autant le bois, autant le fond du lac. »
Et comme ils entraient, Pierre reconnut la petite princesse Rosemonde dans la jeune femme que la pluie rendait si gaie, et le bel Hyacinthe Duvillard dans le jeune homme qui déclarait la mi-carême odieuse, le bois infect, la bicyclette inesthétique. La nuit précédente, après la tasse de thé offerte, elle l'avait gardée, elle avait voulu contenter son caprice en le violentant presque comme on violente une femme. Mais, dès qu'ayant consenti à se mettre au lit près d'elle, il s'était refusé à toute laideur et à toute bassesse, malgré les coups qu'elle avait fini par lui donner, s'exaspérant jusqu'à le mordre. Ah, l'horreur, la vilenie de ce geste, la répugnante grossièreté de l'enfant qui pouvait en être! Ça, quant à l'enfant, il avait raison, elle n'en désirait point. Alors, il avait parlé du geste des âmes qui s'accouplent cérébralement. Elle ne disait pas non, consentait à essayer, mais comment faire? Et comme il reparlait de la Norvège, ils avaient décidé, d'accord enfin, qu'ils partiraient le lundi pour Christiania. Un voyage de noces, l'idée qu'ils iraient là-bas consommer l'intellectualité de leur union. Leur seul regret était qu'on ne fût plus au gros de l'hiver, car la froide, la blanche, la chaste neige n'était-elle pas la seule couche possible pour de telles épousailles? Dès que le garçon leur eut servi des petits verres de bourgeoise anisette, à défaut de quenelle, Hyacinthe, qui venait de reconnaître Pierre et son frère Guillaume, dont il avait eu les fils pour condisciples à Condorcet, se pencha, nomma ce dernier à l'oreille de Rosemonde. Tout de suite, celle-ci se leva dans une brusque exclamation d'enthousiasme. « Guillaume Froment ? Guillaume Froment, le grand chimiste ?» Et, s'avançant, le bras tendu, « Ah, monsieur, vous me pardonnerez cette inconvenance, mais il faut absolument que je vous serre la main. Je vous admire tant. Vous avez fait sur les explosifs de si merveilleux travaux. » Puis, elle se mit à rire comme une gamine, en voyant l'étonnement du chimiste. « Je suis la princesse de Ars. Monsieur l'abbé, votre frère, me connaît, et j'aurais dû me faire présenter par lui. D'ailleurs, nous avons, vous et moi, des amis communs, le très distingué Jeanzan, qui devait me mener chez vous, à titre d'élève bien modeste. J'ai fait de la chimie. Oh, par zèle pour la vérité, et en faveur des bonnes causes, pas davantage. » « N'est-ce pas, maître, que vous me permettez d'aller frapper à votre porte dès que je serai de retour de Christiania, où je vais, avec mon jeune ami, faire un voyage de simple émotion et de recherche dans l'ordre des sentiments inéprouvés ?» Et elle continua, et il fut impossible aux autres de placer un mot. Elle mêlait tout, son goût d'internationalisme, qu'il avait jeté un moment au bras de Jeanzan, dans le monde anarchiste, parmi les pires aventuriers du parti. Sa nouvelle passion des petites chapelles mystiques et symboliques, la revanche de l'idéal sur le réalisme grossier, la poésie des esthètes qui lui faisait rêver un spasme ignoré sous le baiser de glace du bel Hyacinthe. Tout d'un coup, elle s'arrêta, se remit à rire. « Tiens, qu'est-ce qu'ils ont donc, ces agents, à fouiller ici ? Est-ce que c'est nous qu'on vient t'arrêter ? Oh, que ce serait drôle !» En effet, le commissaire de police Dupont et l'agent Mon Désir se décidaient à entrer sous la véranda pour visiter le restaurant, après les recherches vaines que leurs hommes venaient de faire dans l'écurie et dans la remise. Leur conviction était absolue, l'homme ne pouvait être que là. Dupont, un petit monsieur maigre, très chauve, très myope, portant des lunettes, avait son air d'ennui et de lassitude habituelle, au fond très éveillé et d'un courage indomptable. Lui n'avait pas d'armes. Mais, comme il s'attendait aux pires violences, à une défense furieuse de loups forcés, il venait de conseiller à Mon Désir d'armer son revolver et de le tenir prêt dans sa poche. Pourtant, Mon Désir, râblé et carré comme un dogue, qui flairait de son nez camard, dut le laisser passer le premier, par respect hiérarchique. D'un vif coup d'œil, derrière ses lunettes, le commissaire avait dévisagé les quatre consommateurs. Ce prêtre, cette femme, puis les deux autres, des gens quelconques. Et, les dédaignant, il voulait tout de suite monter au premier étage. Lorsque le garçon, épouvanté par cette brusque invasion de la police, perdit la tête, bégaya. « C'est qu'il y a là-haut un monsieur et une dame dans un cabinet. » Dupont l'écarta tranquillement. « Un monsieur et une dame, ce n'est pas ce que nous cherchons. Allons, vite, ouvrez toutes les portes. Il faut que pas une porte d'armoire ne reste fermée. » Puis, en haut, ils visitèrent toutes les pièces, tous les recoins. Et il n'y eut que le cabinet où se trouvaient Ève et Gérard, que le garçon ne put ouvrir parce que le verrou était mis à l'intérieur. « Ouvrez donc !» cria le garçon dans la serrure. « Ce n'est pas pour vous !» Enfin, le verrou fut tiré, et Dupont, qui ne se permit pas même un sourire, laissa descendre la dame et le monsieur, tremblants et blêmes, tandis que Mon Désir entrait regarder sous la table, derrière le divan, au fond d'un petit placard, par acquit de conscience. En bas, lorsque Ève et Gérard durent traverser la véranda, ils eurent la nouvelle émotion de trouver des curieux, des gens de leur connaissance, réunis là par le plus imprévu des hasards. Elle avait beau avoir le visage caché sous son épaisse voilette, elle rencontra le regard de son fils. Elle sentit qu'il la reconnaissait. Quelle fatalité ! Lui, si bavard, qui disait tout à sa sœur, dans le servage épouvanté où elle le tenait. Et comme il fuyait, comme le comte, désespéré du scandale, la reconduisait à son fiacre sous la pluie battante, ils entendirent nettement la petite princesse Rosemonde, très amusée, qui s'écriait « Mais c'est monsieur le comte de Quinsac !» Et la dame, dites, la dame, qui est-ce ? Hyacinthe, un peu pâle, ne répondant pas, elle insista. « Voyons, vous devez la connaître, la dame. Dites-moi qui c'est. »
« Ce n'est personne, » finit-il par répondre. « Quelques femmes. »
Pierre avait compris, gêné devant tant de honte et de souffrance, détournant les yeux, regardant Guillaume. Et tout d'un coup, la scène changea, au moment où le commissaire Dupont et l'agent Mon Désir redescendaient, sans avoir trouvé l'homme. Des cris retentirent au dehors. Il y eut un bruit de course et de bousculade. Puis, le chef de la sûreté Gascogne, qui était resté dans les dépendances du restaurant à continuer les fouilles, parut, poussant devant lui un paquet sans nom de guenilles et de boue que tenaient deux agents. C'était l'homme, la bête traquée, violentée et prise enfin, qu'on venait de découvrir au fond de la remise, dans un tonneau, sous du foin. Ah, quelle hallali de victoire, après ces deux grandes heures de course, après cet enragé battu qui avait essoufflé les poitrines et brisé les jambes. La chasse à l'homme, la plus passionnante et la plus sauvage. On tenait l'homme, on le poussait, on le traînait, on le bourrait de coups. Et lui, l'homme, était le plus lamentable des gibiers, une épave, hâve et terreux, d'avoir passé la nuit dans un trou de feuilles, trempé encore jusqu'à la taille, de s'être jeté au travers d'un ruisseau, battu par la pluie, couvert de fange, ses pauvres vêtements en lambeaux, sa casquette à l'état de loque, les jambes et les mains en sang, de son terrible galop parmi les taillis obstrués d'orties et de ronces. Il n'avait plus visage humain, les cheveux collés aux tempes, les yeux saignants hors des orbites, la face entière ravagée, contractée en un masque effroyable d'effroi, de colère et de souffrance. C'était la bête, c'était l'homme, et on le poussa encore. Et il tomba sur une des tables du petit café, assis, tenu par les rudes poings qui le secouaient. Alors, Guillaume eut un saisissement dont le frisson le glaça. Il saisit la main de Pierre, qui, voyant, comprenant, frémit à son tour. Salva, ô justice, l'homme était Salva. C'était Salva qu'ils avaient vu galoper par le bois comme un sanglier que force une meute. C'était Salva qui était là, ce paquet immonde, ce vaincu de misère et de révolte. Et Pierre, dans son angoisse, eut une fois encore la vision brusque du petit Trottin là-bas, sous le porche de l'hôtel du Villard, l'enfant blonde et jolie dont la bombe avait ouvert le ventre. Dupont et Mondésir, vivement, triomphaient avec Gascogne. L'homme, pourtant, n'avait opposé aucune résistance, s'était laissé prendre d'une douceur de mouton. Et depuis qu'il était là, si rudement tenu en respect, il ne jetait autour de lui que des regards là, d'une infinie tristesse. Il parla, et ce fut sa première parole, la voix rauque et basse. « J'ai faim !» Il se mourait de faim et de fatigue. Il n'avait bu qu'un verre de bière la veille au soir, après 2 jours de jeûne déjà. « Donnez-lui un morceau de pain, » dit le commissaire Dupont au garçon. « Il le mangera pendant qu'on ira chercher un fiacre. » Un agent partit à la recherche d'une voiture. La pluie venait de cesser. On entendit le grelot clair d'une bicyclette. Des équipages reparurent. Le bois reprenait sa vie mondaine. Au loin, dans les larges allées, que dorait un pâle rayon de soleil. Mais l'homme s'était jeté goulûment sur le morceau de pain, et tandis qu'il le dévorait d'un air éperdu de satisfaction animale, ses regards rencontrèrent les 4 consommateurs qui étaient là. Hyacinthe et Rosemonde parurent l'irriter, avec leur mine inquiète et ravie d'assister de la sorte à l'arrestation de ce misérable, qu'il prenait pour un bandit quelconque. Puis, ses tristes yeux sanglants vacillèrent. Il venait d'avoir la surprise de reconnaître Pierre et Guillaume. Et ils n'exprimèrent plus, fixés sur ce dernier, que l'affection soumise d'un bon chien reconnaissant, la promesse renouvelée d'un inviolable silence. De nouveau, il parla, comme s'il s'adressait, en homme de courage, à celui qu'il ne regardait plus, à d'autres aussi, aux compagnons qui n'étaient point là. « C'est bête d'avoir couru. Je ne sais pas pourquoi j'ai couru. Oh, que ça finisse, je suis prêt. »